BD parcourt la vallée. L'émission de la création d'entreprises sur la vallée de la Drôme et le Diois.
Sur les ondes de Radio Saint-Ferréol et Air Diois.
Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission d'IVDD Parcours la Vallée. Aujourd'hui, nous allons parler des entreprises saisonnières et de leurs spécificités. Et pour cela, je suis en compagnie de Françoise Alazard, responsable du pôle développement, accompagnement et conseil au sein de l'Agence de développement touristique de la Drôme, et de Laurent Barbarin, chef d'entreprise qui a créé le camping des Chamberts à Piégros-la-Clastre et qui a accepté aujourd'hui de venir témoigner. Bonjour à vous deux et merci d'être là.
Bonjour.
Bonjour.
Dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter brièvement. Françoise, peut-être on commence avec toi.
Merci. Je suis donc Françoise Alazard, adjointe de direction à la Drôme Tourisme, qui est l'agence de développement touristique de la Drôme, qui a pour mission l'aide et la mise en œuvre de la politique définie par le conseil départemental. Nous avons pour rôle premier la promotion communication touristique, qui se fait au travers d'un site internet, au travers d'accueil presse et de participation à des salons, et ensuite diverses actions de promotion sur les marchés français et les marchés étrangers. Et il y a également un pôle concernant plus précisément l'accompagnement, le conseil aux professionnels et aux porteurs de projets, que ce soit en termes de création, développement de leur activité et de leur structure, mais également l'aide et l'accompagnement à la commercialisation, à la mise en marché de l'offre au travers de divers outils que nous pouvons proposer et qui sont relayés sur notre site ladrometourisme.com.
Et Laurent Barbarin, donc du camping des Chamberts à Piégros-la-Clastre.
Bonjour, Laurent Barbarin, donc gérant du camping Les Chamberts à Piégros-la-Clastre, en bord de Drôme. Donc c'est un camping nature basé sur le slogan « Retour à la nature » où vous pouvez trouver chez nous donc des lodges et des tentes safari et des hébergements insolites ainsi que des emplacements de camping, bien sûr, au son des cigales et en bord de Drôme.
Super, beau programme. On peut peut-être commencer par présenter plus en détail les services que peut proposer l'agence de développement touristique de la Drôme, donc la Drôme Tourisme, aux porteurs de projets, aux créateurs d'entreprises dans le secteur des entreprises saisonnières.
Alors que ce soit dans le secteur des entreprises saisonnières ou des entreprises touristiques classiques, nous avons une équipe pluridisciplinaire qui permet d'accompagner aussi bien en études de faisabilité, études de marché, accompagnement en termes de financement, divers conseils par rapport à la demande des clientèles, mais également des conseils concernant le marketing, la communication, la promotion, la mise en marché de l'offre.
D'accord. Vous accompagnez les entrepreneurs pour dans la création de leur projet déjà ? Vous pouvez les guider dans cette phase d'élaboration du projet, si j'ai bien compris ?
Oui, absolument, tout à fait. On les conseille, on les accompagne. On a un certain nombre également de données statistiques qui peuvent permettre d'avoir une approche vraiment très concrète dans la définition du projet, dans l'élaboration du projet. Approche très générale pour vraiment aider à faire en sorte que les structures créées soient viables économiquement, puisque le but, c'est de créer de l'économie touristique.
Vous avez un regard d'expert. Vous pouvez donc donner des informations sur l'environnement, le territoire, les impératifs du marché. Vous connaissez bien le territoire, vous pouvez conseiller là-dessus.
Tout à fait. Nous apportons vraiment une expertise dans le domaine du tourisme pour tout ce qui concerne le développement de nouvelles offres qui peuvent être aussi bien de l'hébergement que la création d'activités, que la création d'un site de visite. Nous avons, et les territoires également, qui ont des besoins, des projets qu'ils veulent mettre en place.
D'accord, donc sur tout type d'activité également, tout le monde peut vous contacter sur toutes les activités liées au tourisme
Oui, dès lors que ça concerne le tourisme et qu'il y a des questions qui se posent, un porteur de projet peut nous solliciter et nous interroger. Ou pour le moins, dans un premier temps, il peut consulter notre site internet www.ladromtourisme.com. Nous avons un espace pro qui est consultable librement, sans login et mot de passe, où il trouvera diverses rubriques et diverses informations pour définir son projet.
Déjà un premier niveau d'information sur internet et puis après ils peuvent vous contacter.
Tout à fait.
Oui, Laurent ?
Nous, en tant qu'acteurs, hébergeurs, on va dire, tous les campings de la Drôme, je fais partie aussi de la Fédération des campings et on travaille beaucoup avec l'ADT. Et je tiens à signaler que leur site internet est vraiment bien fait. C'est très complet et pour ça, on les remercie bien d'ailleurs.
Merci.
Très bien, le message est passé. Donc, est-ce que vous pouvez aussi nous présenter l'activité touristique en Drôme, Françoise Alazard, du point de vue d'une structure qui accompagne donc les activités touristiques et saisonnières, et puis Laurent Barbarin, du point de vue d'un chef d'entreprise du territoire. Peut-être quelques chiffres déjà pour commencer, Françoise ?
Oui, tout à fait. Je vais pouvoir vous donner quelques chiffres concernant la fréquentation de la Drôme. Nous comptabilisons plus de 8 millions de nuitées touristiques. Il faut savoir que 53% de ces nuitées sont réalisées sur les mois de juillet et août, soit 2 mois, et que 26% se font sur les mois de printemps, de mars à juin. Donc autant dire que nous avons une activité touristique qui est très saisonnière et qui connaît des périodes très basses entre novembre et février. Ce sont vraiment les mois très creux, hormis la période un petit peu aux alentours de Noël qui connaît une fréquentation un peu plus importante, mais il y a vraiment de grosses fluctuations.
Et quel est le type de tourisme que viennent chercher les gens sur la vallée de la Drôme et le Diois ?
Alors, pour la Drôme en général, et je pense que la vallée de la Drôme et le Diois va se retrouver dans ces caractéristiques-là, les clients vont rechercher une qualité de paysage, qualité d'environnement, du calme, de la tranquillité. On est vraiment sur un tourisme composé majoritairement de familles qui veut, pendant le temps de ses vacances, se reposer, prendre le temps de la découverte, de la rencontre avec les habitants, de l'échange. Les petits marchés ont beaucoup de succès et sont très demandés par la clientèle. Cette clientèle est composée à 63% par la clientèle française, Rhône-Alpes, Île-de-France et PACA, et 37% clientèle étrangère avec une grosse provenance des Pays-Bas et ensuite Belgique et Allemagne.
D'accord. Et je pense que Laurent, tu vas confirmer ces informations par ce que tu vois au sein de ton camping, la clientèle que tu reçois et le type d'activité. Retour à la nature.
Et justement, retour à la nature, comme disait Françoise, c'est vraiment ce que les clients qui viennent en Drôme, dans la Drôme recherchent. C'est pour ça qu'on a choisi ce slogan-là. Tous nos clients, quand ils arrivent au camping, donc ils sont en demande d'informations, bien sûr, mais souvent ils recherchent donc des circuits VTT ou aller grimper pour faire de l'escalade. Ils aiment bien la rando pédestre aussi, puis le vélo, le cyclotourisme tout simplement. Et en effet, on les informe sur les marchés parce que ça, ils sont très très friands des produits locaux tels que les légumes bio. C'est la demande qu'ils ont en général.
La demande première des clients. D'accord. Au niveau des entreprises saisonnières, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu les grandes spécificités de ces entreprises ?
Comme on l'a dit tout à l'heure, la fréquentation touristique étant quand même très forte sur un laps de temps limité, les entreprises doivent s'adapter à ces fréquentations très faibles sur certaines périodes. On se rend compte qu'on a quand même dans le département de la Drôme des entreprises qui sont pour le plus souvent des entreprises familiales et qui emploient du personnel uniquement sur la saison d'été et sur les grosses périodes de fréquentation. Donc c'est pas simple à gérer aussi bien en termes de recrutement que également en termes de trésorerie. parce que il faut faire face aux charges pendant les mois creux et il faut payer ses engagements sur les 12 mois.
Mmh. Laurent, ton expérience ?
Alors, nous, le camping est ouvert du 1er mai jusqu'à peu près fin septembre. Donc, les week-ends de mai, les longs week-ends de mai, comme l'année dernière, ou ce week-end qui vient de passer, comme le 8 mai, c'était l'Ascension, on a eu beaucoup de monde, on était pratiquement complet sur le camping. Et c'est vrai que juillet-août, c'est à fond la caisse, hein, on regarde plus les heures, on doit dormir 3-4 heures par nuit, mais il faut gérer tout ça. Parce qu'au mois de septembre, quand c'est terminé, il n'y a plus personne. Et après, bah, il faut gérer tout l'après, payer toutes les factures et puis surtout bien provisionner sa trésorerie afin de faire face à toutes les charges qui tombent quand même l'hiver. Mmh. Et puis l'hiver, le camping étant fermé, on se concentre 100% marketing maintenant sur le net uniquement avec notre site leschambert.com. Et puis aussi, on fait un petit peu d'élagage dans le camping. Et puis, les travaux recommencent après, à partir du mois de mars, avant l'ouverture. Voilà, donc c'est un boulot à l'année entière, avec une ouverture saisonnière.
C'est ça, c'est pas une activité juste pendant quelques mois. Il y a tout ce qu'il y a à faire pendant la basse saison. Il y a aussi s'occuper des lieux et puis aussi travailler sur la communication pour permettre de se faire connaître et puis que la saison redémarre au mieux ensuite.
C'est ça, et en plus nous on investit toutes les années, il faut des nouveautés parce que notre clientèle demande ça, donc on rajoute des locatifs, on fait des travaux dans le camping, on fait pousser des arbres, enfin tout ce qui met en valeur le camping, et chaque année les clients reviennent et sont contents de voir tous ces changements. Donc on se laisse pas aller, on se repose pas sur nos lauriers. Et vraiment, on essaye de développer ce camping du fond du cœur, parce que nous on aime bien recevoir les gens, on aime bien accueillir les gens, et on aimerait bien que la Drôme, surtout la vallée de la Drôme, se fasse plus connaître, parce qu'elle mérite vraiment d'être connu. C'est vraiment magnifique comme endroit. Moi, je viens d'une ville, on a tout quitté pour venir ici il y a 3 ans à peu près.
D'accord.
Donc, je venais de Toulouse, qui est une belle région aussi. Mais tous les jours, quand je prends ma voiture, je vois ces trois becs, cette vallée, je suis émerveillé. Et j'aimerais bien que toutes ces personnes viennent voir ça, parce que c'est vraiment magnifique et il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et je trouve aussi que dans la Drôme, tous les acteurs vraiment se bougent. Notamment l'ADT que représente Françoise ici, et puis je vois aussi toutes les communautés des communes font pas mal de choses pour le tourisme. On se sent soutenu. Moi j'ai fait l'expérience dans une grande ville où j'avais une entreprise où là on est vraiment rien du tout, et là vraiment on se sent soutenu, quoi. Et notamment par l'IVDD bien sûr en premier lieu.
Laurent Barbarin sera notre un ambassadeur parfait pour la vallée de la Drôme et le Diois.
La vallée de la Drôme et le Diois méritent d'être connus. On a prospecté sur la région toulousaine parce qu'on connaît bien pour attirer des clients. Des clients sont venus, ils reviennent chaque année. Mais une fois qu'ils viennent, vous pouvez être sûr qu'ils réservent pour l'année d'après et d'une année sur l'autre, parce qu'ils ont peur qu'il n'y ait pas de place. Ils ont vraiment envie de venir dans la Drôme et notamment dans notre vallée. Il faut le dire.
C'était une question que je voulais justement te poser. Est-ce que les clients reviennent d'année en année ? Est-ce qu'il y a des habitués ?
Oui. Alors chez nous, depuis que j'ai repris le camping, on a visé un certain type de clientèle, notamment des citadins un peu cadres supérieurs. On essaie de tirer vers le haut, donc en faisant des prestations et en mettant des locatifs assez sympas, comme des tentes lodges, des tentes safari, bien nature, avec des cabanes trappeurs, etc.
D'accord.
Donc les gens viennent, gardent du confort, mais ils sont quand même dans la nature et ils aiment ça. Donc bon, on essaie de les accueillir au maximum et ils sont très contents et ils reviennent d'année en année. Comme je disais auparavant, ils réservent souvent d'une année sur l'autre. Hein. Dès qu'ils s'en vont, ils disent l'année prochaine, je viendrai telle époque. Ils font leur réservation et puis nous, je vois pour les locatifs, on était complet fin février, quoi.
Bon, c'est une bonne nouvelle.
Je voulais réagir par rapport à ce que dit Laurent. C'est vrai que on est un département touristique. Le tourisme, c'est un secteur de l'économie et un gros volet de l'économie qui permet de faire vivre nos territoires et d'apporter vraiment une richesse, que ce soit aussi bien en termes de structure touristique elle-même, d'entreprise, mais également les commerces locaux, les petits artisans, artisans, il faut quand même penser que cet apport permet de créer une dynamique à l'échelle de nos territoires et de la Drôme plus particulièrement. Par rapport à la fidélisation, nous, c'est pas, ça ne sont pas des données que nous avons dans nos chiffres, puisqu'on ne mesure pas, nous, directement le taux de fidélisation. Mais moi-même, pour rencontrer quand même beaucoup de professionnels, on se rend compte que le taux de fidélisation est très important et que quand des clients ont découvert la Drôme, ils ont envie, ils ont plaisir à y revenir une, deux ou trois fois. Alors qu'on parle beaucoup de zapping, de clientèle qui change de destination, dans la Drôme, on a l'avantage d'avoir un taux de fidélisation important.
Oui, d'accord.
En même temps, quand ils viennent 15 jours, 3 semaines, c'est pas possible de tout faire. Il reste tellement de choses à faire qu'ils sont obligés de revenir.
Oui, c'est sûr.
Et justement, il y a un travail qui se fait en partenariat aussi entre les différents acteurs du territoire, les prestataires de services, des activités. On voit peut-être ça sur le territoire, des gens qui travaillent ensemble beaucoup.
Oui, sur le territoire, mais même sur la Drôme en général. Un hébergeur n'est pas un prestataire d'activité. Un prestataire d'activité n'est pas hébergeur. À chacun son métier, sa compétence. Et du coup, sur un territoire, il y a des partenariats qui sont tissés, des avantages tarifaires par exemple. Voilà, c'est vraiment très très important et les clients sont demandeurs, ils ne restent pas sur un lieu, ils vont visiter la région, ils vont visiter un site, ils vont pratiquer une activité, c'est très important. Mais Laurent peut en parler plus concrètement pour son établissement.
Oui, par exemple, nous, tout ce qui est en rapport avec les activités de canoë et kayak et puis un peu de canyoning, on travaille en partenariat avec Eva Location sur Saillant, ça se passe super bien. Ensuite, au snack, on travaille pratiquement qu'avec des produits saisonniers, hein, 80%. Donc, on fait des assiettes de charcuterie avec la charcuterie de Saillant. On travaille que de la bière régionale. On travaille que du vin bio qui est aussi de la région. On essaye d'être dans cette optique-là de circuit court, quoi. Donc, et puis, on essaye de faire travailler tout le monde. Et puis, entre collègues, on s'entend bien aussi. Donc, quand quelqu'un est complet, ben, on appelle le collègue et puis on lui demande s'il reste de la place et puis on envoie les clients. Enfin, on travaille en très bonne harmonie avec tout le monde et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai repéré dans cette vallée de la Drôme qui me plaît vraiment.
Ouais, très bien. Une belle, une bonne formation des différents prestataires de services et d'accueillants, hébergeurs. Et du coup, ça fonctionne bien en lien les uns les autres. Très bien. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après.
Seeds of love we should be planting. We just can't waste no time. Time to lost a smile, you can't rewind. You're welcome to my garden of love. You're welcome to my garden of love.
Winston McAneuf et Fixie. On se retrouve maintenant pour la deuxième partie de l'interview sur le thème des entreprises saisonnières avec Françoise Alazard de l'agence de développement touristique de la Drôme et Laurent Barbarin du camping des Chambères à Piégros-la-Clastre. Alors, on parle donc des entreprises saisonnières. Quels sont les points à ne pas négliger dans la création d'une entreprise saisonnière, justement ?
Je pense qu'il faut d'abord envisager l'ouverture de la structure elle-même plutôt en début de saison, c'est-à-dire ce que l'on appelle nous le début de saison, c'est avril ou mai, tout en ayant en tête que quand même il est nécessaire de faire une pré-commercialisation et de penser à toutes les actions de commercialisation, de création de sites internet ou autres, au moins 6 mois avant, puisqu'il y a des clients qui anticipent, d'autres qui anticipent un petit peu moins, mais c'est important de commencer à créer ces outils-là au moins 6 mois avant l'ouverture. L'ouverture au mois d'avril, elle se justifie par le fait que c'est la période où on va pouvoir se roder, mettre en place le produit, recadrer certains défauts qui peuvent être constatés et surtout ne pas manquer l'apport en trésorerie qui va arriver grâce à la forte fréquentation.
Oui, donc ça permet de bien se préparer, donc créer l'entreprise, enfin en tout cas ouvrir l'entreprise quelques mois avant la haute fréquentation pour bien se préparer et puis profiter de l'intégralité finalement de la période d'ouverture de saison, quoi.
Tout à fait.
Ouais.
Mais surtout si on ouvre début juillet, on va rien comprendre parce que ça arrive tout d'un coup, on n'a pas le temps de se mettre en place, donc il faut bien se mettre en place. Donc faut prévoir bien une ouverture, comme dit Françoise, vers le mois d'avril, et surtout en amont, bien travailler tout son marketing et sa pub, au moins 6 mois, voire 1 an à l'avance, pour être bien prêt, quoi.
Comment ça se passe pour la gestion du personnel ? Il faut embaucher au bon moment
Alors, c'est un sujet qui est crucial. C'est sûr qu'il faut embaucher au bon moment. Je dirais qu'on a quand même une visibilité par rapport aux périodes de fréquentation et du coup on sait quand même les périodes où on va avoir du monde et il faut effectivement embaucher, et c'est là qu'est la difficulté. Il faut être en capacité de bien bâtir des fiches de fonction, de bien travailler son entretien. C'est pas toujours simple de trouver du personnel compétent, qualifié. C'est vraiment un travail qu'il faut bien anticiper. Il y a des relais hein, quand même qui sont proposés aux professionnels. Il y a des forums pour l'emploi, il y a Pôle emploi, il y a voilà, divers relais qui facilitent le parcours de l'entrepreneur à ce sujet-là.
Laurent, est-ce que tu embauches toi en pleine saison ?
Eh ben nous, en tant que petite structure, jusqu'à présent, on avait une personne qui nous aidait, donc on embauche au moins une personne. Et c'est vrai que on parlait de fidélité tout à l'heure. C'est possible de garder un employé d'une année sur l'autre, mais souvent on est obligé de changer. Donc c'est reformation. Réexplication des choses et puis surtout ce qu'il faut c'est de l'organisation quoi, bien déterminer les tâches à l'écrit s'il faut, mais une organisation parfaite devrait faire les choses.
Oui, parce que c'est plus en haute saison qu'on aura le temps de définir qui fait quoi.
Oui, tout à fait. Et puis pour l'employé, le salarié, c'est important de savoir ce qu'il va faire, quelles seront ses missions. Les choses sont claires, ça évite des malentendus, des embrouilles en cours de saison. Et quand on a un salarié qui s'en va du jour au lendemain alors que c'est le plein boom, c'est compliqué à gérer pour un entrepreneur.
Et au niveau des autres points de vigilance à avoir, qu'est-ce que vous pourriez préconiser à des créateurs d'entreprises ?
Le point de vigilance, pour moi, le plus important, c'est d'avoir la trésorerie nécessaire pour faire face aux variations de rentrée financière. Parce que sur certains établissements, on peut avoir des pré-réservations ou des réservations avec le paiement d'acompte. C'est le cas, je pense, pour Laurent.
Tout à fait.
Mais c'est vrai que pour des hôtels, il n'y a pas de réservation très longtemps à l'avance. C'est souvent de la dernière minute. Et malgré tout, les charges sont à payer sur 12 mois. Donc, il faut vraiment que le fonds de roulement de l'entreprise soit suffisamment important pour faire face aux besoins fixes toute l'année. Et également, je dirais qu'il y a un travail de fond et un travail de proximité à faire avec son organisme bancaire pour avoir des conditions avantageuses ou avoir vraiment une relation de confiance qui facilite ces périodes de très creuses où il n'y a pas de rentrée financière, mais par contre, il y a toujours des sorties.
Bien sûr.
Oui, des sorties financières. C'est vrai qu'il faut vraiment s'entendre avec la banque qui sont là justement pour vous soutenir en période creuse. En général, ils le font. Hein, ils savent très bien qu'ensuite, votre chiffre va grimper d'un seul coup. Donc, ils savent bien que tout va rentrer dans l'ordre au bout d'un moment. Donc oui, c'est vrai qu'on a besoin l'hiver de partenaires comme les banques pour nous aider à passer les mois plus difficiles, parce que les charges sont là, hein, faut pas l'oublier. Et puis nous, on investit chaque année, donc c'est pareil, on emprunte de l'argent, donc il faut rembourser des crédits. Et ça, il faut bien le prévoir et surtout bien gérer, et se faire conseiller par un comptable qui connaît bien... la saisonnalité, il faut faire un bon prévisionnel, savoir ce que va nous coûter l'année, finir sa saison et avoir la trésorerie pour pouvoir passer l'hiver. Donc c'est une question encore d'organisation et de gestion. Voilà.
Oui, la question du prévisionnel, elle est importante aussi hein, pour même préciser la date de clôture des comptes. Tout ça, c'est quelque chose qu'il faut prévoir à l'avance aussi. Hein.
Oui, tout à fait. Un prévisionnel sert à, comme un tableau de bord. Il doit vraiment permettre d'avoir un suivi régulier et de ne pas attendre d'être à l'extrême limite pour réagir. Ça peut être aussi par rapport à des fréquentations qui sont un petit peu plus faibles sur un mois ou d'une année sur l'autre. Les modèles ne se reproduisent pas, on ne fait pas des copier-coller, ça serait beaucoup plus simple. Et du coup, il faut pouvoir réagir en lançant des offres promotionnelles, des bons plans, en reboostant une campagne sur Internet. Et le suivi du prévisionnel est vraiment essentiel dans la gestion de l'entreprise.
Surtout pour les frais, quoi. Sur le prévisionnel, moi par exemple, je fais des tableaux, je sais combien je dois dépenser. Donc toutes mes dépenses sont marquées et à la fin, j'ai tout le temps sous les yeux ce qui me reste normalement avec le prévisionnel. Donc on essaye toujours d'aller en dessous. Voilà, donc il faut prévoir tout ça et surtout bien gérer. Et puis, y a des professionnels comme des comptables qui savent très bien faire les choses et qui sont là pour vous conseiller aussi.
Ça permet aussi de gérer pour des investissements, ce qu'on disait tout à l'heure, investir en basse saison pour améliorer, pour travailler sur la communication. Il y a aussi donc cette question d'ouverture ou non en basse saison selon les établissements et selon les activités. Est-ce qu'on ouvre, est-ce qu'on n'ouvre pas?
Oui, alors là, sur la décision d'ouvrir ou non, d'être établissement saisonnier ou non, il faut vraiment l'analyser en fonction du type de structure, d'établissement, en fonction de la situation géographique et de la structure elle-même. On a des établissements qui ont des frais de fonctionnement, je pense notamment au chauffage, qui sont très élevés ou qui entraînent des frais très importants. Et du coup, il vaut mieux fermer sur certaines périodes pour éviter d'avoir un coût de fonctionnement bien trop élevé par rapport à un chiffre d'affaires possible. Et c'est vrai que ces périodes de fermeture permettent de faire des travaux, d'améliorer son établissement, de relancer des campagnes de communication, de travailler son fichier clientèle pour le relancer en présentant les nouveautés sur l'établissement. Voilà, ce sont des moments qui permettent aussi de prendre du recul par rapport à un fonctionnement quotidien. Et finalement, 2 mois, 3 mois de fermeture peuvent permettre de vraiment développer l'établissement de façon plus pertinente.
Oui, voilà. Par exemple, nous, ce qu'on fait, on va partir dès la fermeture du camping au mois de septembre. Donc déjà, on se repose un petit peu. Et surtout, après, on prépare un planning de savoir ce qu'on va faire, donc les travaux, à quelle période. Après, on fait aussi un planning pour le marketing. Donc nous, 90% de nos clients viennent par Internet. Donc ça, c'est un travail énorme, et quand on est fermé, ça nous permet vraiment de se concentrer là-dessus, parce que juillet, août, vous faites que vous occuper des clients et du camping, et tout ce qui est à côté, on s'en occupe plus, hein. C'est pas la peine, on n'a pas le temps.
Non, ouais.
Donc c'est bien de fermer pour pouvoir justement d'avoir des périodes calmes, pour pouvoir bien préparer, construire des bonnes fondations pour commencer sa saison sur les chapeaux de roue, et puis à fond, quoi.
C'est ça. Et donc, si on veut en savoir plus sur le camping des Chambères, on peut aller sur Internet, donc.
Voilà, donc c'est leschambères.com. Et là, vous avez toutes les infos sur le camping des Chambères qui est ouvert du 1er mai au 18 septembre cette année. Et puis, venez nous voir, vous allez voir, c'est un endroit magnifique avec une piscine naturelle en bord de Drôme où on peut se baigner. C'est splendide.
Ah, super. Et pour les créateurs qui souhaiteraient s'installer, créer une entreprise ou reprendre une entreprise saisonnière, ils peuvent faire appel donc à l'agence de développement du tourisme en Drôme.
Oui, tout à fait. ladrometourisme.com, c'est le site internet où il est présenté l'ensemble de l'offre touristique. Mais il y a un espace pro qui est dédié à l'accompagnement au conseil des porteurs de projets, qui présente également les missions et le rôle de la Drôme Tourisme, et également qui a une rubrique observatoire avec toutes les données chiffrées de fréquentation de l'année.
Très bien.
On s'en sert beaucoup, hein, nous, dans le tourisme, du site de l'ADT, donc la drometourisme.com, comme disait Françoise, pour la communication Internet. C'est vraiment super. Et puis, il y a plein d'autres outils. Vraiment, c'est un bon site Internet.
C'est bon à savoir.
Merci.
Merci à vous deux pour ce témoignage. Merci d'avoir accepté cette invitation pour l'émission IVDD Parcours la Vallée. À bientôt, merci.
À bientôt, merci.
Merci, à bientôt.
Comme chaque mois, l'émission IVDD Parcours la Vallée donne la parole au chef d'entreprise de la Vallée. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de l'entreprise Selvao Conception, qui est spécialisée dans la création et la fabrication de logements insolites et suspendus. Pour en parler, je suis en compagnie de Guillaume Morin et Frédéric Bompard. Bonjour à vous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, dans un premier temps, je vais vous demander de vous présenter vos rôles dans l'entreprise. Qu'est-ce que vous faites ?
Donc, moi, je suis Guillaume Morin. Je suis le gérant et le fondateur de Selvao. Donc, on est trois associés dans la société. Il y a donc mon autre associé Thibault Labonde qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui est responsable plus de la partie commerciale et administrative. Et le troisième associé qui est
ici, Frédéric.
Bonjour à tous, donc Frédéric Bompard. Je suis rentré à peu près il y a un an et demi dans la société. Je m'occupe essentiellement du développement de la société sur le plan marketing, communication. Et j'assiste aussi Thibault dans la commercialisation de nos logements.
Alors c'est quoi Selvao Conception ?
Donc Selvao Conception, c'est une société qui conçoit, qui fabrique et qui installe des logements insolites et suspendus ou sur pilotis. Donc l'idée, c'est qu'on travaille à partir de croquis, d'esquisses. À partir de là, moi, je m'occupe de la partie conception. Je vais dessiner plus en détail les plans, les volumes, tout ce qui est dessin 3 dimensions. On va ensuite fabriquer les différents éléments, on construit un prototype et ensuite on le fait tester, on le teste et on va donc créer un premier modèle. Et à partir de là, on va le commercialiser, on fabrique ensuite à la commande les structures.
On conçoit, on fabrique, on installe tous nos logements, voilà, de A à Z, de la création sur un dessin à la fabrication et l'installation de nos logements. Voilà.
D'accord, l'installation sur place. Ok.
Tout à fait.
Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette entreprise et comment est né le projet ? C'est parti de quoi, cette idée ?
Alors, en tant que fondateur, c'est moi qui ai eu l'idée de créer cette entreprise. L'idée est venue de différents voyages que j'ai fait à travers le monde. Et plus particulièrement en Amérique centrale et en Amazonie, où j'ai travaillé comme grimpeur encadrant sur des missions scientifiques dans la canopée. La canopée, c'est le dernier étage de la forêt. Donc durant ces expéditions, j'accompagnais des scientifiques sur des filets, sur des installations qu'on accrochait donc à la cime des arbres. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à développer des structures suspendues. De retour en France, j'ai travaillé dans un bureau d'études où on développait du matériel d'élagage et j'ai créé le premier modèle avec cette société, donc qui sera plus tard la Pandola. Et à côté de ce métier, j'ai développé un autre produit qui s'est appelé plus tard la Campalune. Et de là, on a créé Selvao Conception parce qu'on a eu des demandes suite à ces projets.
Donc en fait c'est c'est de travailler dans les arbres, ça vous a donné en fait l'idée de créer ces hébergements suspendus. On reviendra tout à l'heure sur les différents hébergements. Donc là vous avez déjà cité la Pandola, la Campalune, mais on reviendra en détail dessus. Donc c'est vraiment le fait de pouvoir le concept, c'est de pouvoir habiter dans les arbres en fait.
Voilà, c'est exactement ça. En fait, ma passion, c'est quand même de grimper dans les arbres, de me retrouver à la cime et d'observer ces magnifiques êtres. Et du coup, j'avais envie à l'origine de le faire profiter à un plus grand nombre. Et plus j'ai évolué sur cette partie-là, plus j'ai eu envie de créer aussi des choses confortables afin de pouvoir le faire profiter à un plus grand nombre.
Ouais, ça apporte un confort dans les arbres, la tête dans les arbres, c'est super chouette. Donc en fait, le nom de l'entreprise, ça vient de là, c'est ça ?
Exactement, donc vu que la naissance du projet a pris sa base dans les forêts tropicales, le nom des forêts tropicales en espagnol, c'est Selva. Et voilà, c'est là qu'est découlé Selvao. Et vu qu'on voulait quand même bien montrer qu'on est concepteur, c'est exactement ce qu'on a fait, donc Selvao Conception.
Au niveau des habitats que vous construisez, que vous avez conceptualisés et créés, donc on a parlé tout à l'heure de la Pandola. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus, comment elle est ?
Alors la Pandola, elle a pris son origine aussi à l'étranger. Ça vient du nom Oropandola, c'est un oiseau qui est un tisserand qui fait un nid en forme de poire ou un nid qui est suspendu. Et on a créé cette Pandola, donc c'est un modèle qui est assez simple, qui permet de dormir facilement suspendu à un arbre pour deux personnes. Et qui rentre dans un sac qui est tout pliable et qui s'installe facilement. Donc ça pèse 25 kilos, on peut le mettre dans le coffre d'une voiture, partir en week-end avec et puis l'installer sous un arbre pour dormir tranquillement.
Ça s'installe n'importe où.
Voilà, il suffit de connaître quelques techniques de cordes et on peut l'installer dès qu'on trouve un arbre ou deux.
D'accord, et elle est en quel matériel ? Elle est en toile, c'est ça ?
Voilà, c'est de la toile, ça a la forme d'un tipi avec le dessous comme un nid. Et c'est une toile qui est tendue sur un cerclage en acier. Et on dort sur cette toile comme dans un grand hamac.
Un hamac avec... mais c'est tout fermé en fait, c'est ça hein, c'est, on est protégé des intempéries
Voilà, on est protégé des intempéries. Et après, dès qu'il fait beau, on peut ouvrir, il y a 6 ouvertures. Dans le plancher en toile, il y a des ouvertures aussi pour accéder à la jupe de rangement en dessous, donc pour mettre ses affaires le soir. Et après, on referme et ça nous fait une grande surface de 2,40 m de diamètre, ce qui permet de dormir aisément à deux, et même à deux adultes plus un ou deux petits-enfants à côté.
D'accord, super. Et on a parlé aussi tout à l'heure de la Campalune. Qu'est-ce que c'est la Campalune ?
Donc chez Selva aux Conceptions, on a plusieurs types de logements. Donc la Pandola qui est la plus petite et effectivement on a la Campalune, la Goutte d'eau. Donc la Campalune, elle peut être soit sur pilotis, soit suspendue, de 10 mètres carrés ou 20 mètres carrés. L'inspiration de tous nos logements vient essentiellement de ce qu'on appelle le biomimétisme. On en reparlera un peu plus tard si on a le temps. Donc ces logements en fait viennent du monde floral en fait hein. Donc la Campalune c'est construit, c'est une ouverture à 360, les matériaux utilisés c'est que des matériaux recyclables, donc du bois, de l'acier, de la toile, voilà hein. Donc en dimension 10 mètres carrés et 20 mètres carrés.
D'accord, donc qui peut être installé soit dans les arbres accrochés, soit sur pilotis avec des pieds reposant sur la terre. Il y a les deux possibilités. Hein.
Oui, tout à fait. Ouais. Donc là, on peut voir notamment la Campalune sur pilotis à Gervain Camping, à Mirabel les Blacons. Voilà.
D'accord. Et pour la Goutte d'eau, c'est quoi la différence en fait ? C'est en termes de surface, c'est en termes de fabrication ?
Donc la Goutte d'eau c'est pareil, hein, ça peut être soit suspendu soit sur pilotis. La surface c'est 6 mètres carrés, donc c'est un peu plus petit, c'est beaucoup plus on va dire cocooning. Là ça vient plutôt on va dire du monde, pas minéral mais plutôt aquatique parce que c'est vraiment en forme de goutte d'eau. Donc pareil, toujours avec des matériaux recyclables. Là il y a du bois, de l'acier et surtout là c'est plus de la toile mais c'est de la tôle laquée en fait. Voilà.
D'accord. Et donc dans tous ces aménagements, là je précise en fait qu'on on enregistre cette interview dans une goutte d'eau et c'est vraiment c'est très sympa, on a de la vue sur les arbres, sur le ciel, voilà on est bien installé. C'est installé au gîte des Ayas à Vaunavé-la-Rochette. Il y a combien de mètres carrés à peu près ?
6 mètres carrés.
6 mètres carrés
au sol, mais avec l'effet bombé, en fait, ça, on a une impression de volume beaucoup plus importante. Donc, on est autour de, on va dire, 8 mètres carrés.
Voilà. D'accord. Et on peut dormir dedans aussi. Il y a la place de dormir pour à peu près un lit pour deux.
Voilà. En fait, sur la goutte d'eau, on peut dormir à 4 avec une famille, en fait. Donc, il y a sur le plancher, il y a un lit, un système de BZ. Et puis, pour les enfants, il y a un système de hamac où ils peuvent dormir au-dessus des parents. Toujours, l'idée de l'ensemble de nos logements, c'est toujours être en harmonie avec la nature, qui est une ouverture vers l'extérieur. Voilà, pour pouvoir contempler la forêt ou autre environnement naturel en fait.
C'est ça. Oui, du coup, on peut dire que vous avez vraiment une éthique au niveau, enfin, dans l'entreprise, une éthique de travail. Vous avez une démarche bien fondée sur le développement durable et sur, bon, déjà, la fabrication est locale, hein, c'est ça ?
Exactement. Donc, on privilégie un assemblage dans nos ateliers. Les pièces qu'on fait fabriquer pour certaines parties plus techniques, on choisit des acteurs locaux, c'est-à-dire en Drôme et en Isère, maximum. Mmh. Et donc pour ce qui est la partie de cintrage, de grosses pièces importantes, la partie bois quand c'est découpé numériquement. Et ça dans un souci d'efficacité et de qualité.
Donc on peut dire que les valeurs, c'est un peu les valeurs de l'innovation, mais dans le respect de l'environnement, en fait. C'est, vous avez choisi aussi de vous implanter dans la vallée de la Drôme. C'était un choix, hein, je crois.
Oui, tout à fait, parce que ça répond, on va dire, complètement à notre philosophie de construction et de conception, étant donné qu'on vient du monde végétal, de l'arbre, donc ça correspond en fait à la philosophie de la biovallée, du respect de l'environnement, du respect des matériaux, du respect de l'humain, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que on est bien dans la vallée, en fait.
On est bien ici. Et l'assemblage était pensé, démontable pour le recyclage aussi. Hein. Il y a une partie qui a été pensée comme ça aussi au démarrage dans la conception de ces habitats.
Voilà, en fait, on utilise pour les différents habitats, on utilise soit du bois, soit de l'acier, soit de la toile. Quand on mixe ces éléments, on ne va jamais utiliser de colle qui rendrait impossible le démontage. Tout ce qui est assemblé, c'est par visserie ou par cloutage. Et donc en fin de vie, les produits sont complètement en désassemblage et le bois sera composté ou sera brûlé. La partie acier, il y a des très bonnes filières de recyclage. Et la partie toile, on travaille avec un fabricant qui est Grenoblois, qui est reconnu au niveau architecture textile et qui a sa propre filière de recyclage. Donc quand on a des chutes ou quand on a des fins ou des toiles qui sont usagées, on leur envoie et eux, ils les recyclent et ils en font soit d'autres toiles, soit de l'isolation, soit tout ce qui est textile, quoi.
On fait une petite pause musicale maintenant avec Aguas de Marzo, Elis Regina et Tom Jobim.
É o fim do caminho, é o resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é a peroba do campo,
é o nó da madeira,
canga, candeia,
é o mate da pereira,
é madeira de vento,
da ribanceira,
é o mistério profundo,
é o queira ou não queira,
é o vento ventando.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira,
é o pé, é o chão,
é a mastradeira,
passarinho na mão,
pedra de atiradeira,
é uma ave no céu,
é uma ave no chão,
é um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão,
é o fundo do poço, é o fim do caminho, no rosto o desgosto, é um pouco sozinho, é um estresse,
é um prego,
é uma ponta,
é um ponto,
é um pingo,
pingado,
é uma cor,
é um conto,
é um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando,
é a luz da manhã,
é o tijolo chegando,
é a lenha, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, estilhaço na estrada,
é o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a lama, é a lama,
é um passo,
é uma ponte,
é um sapo,
é uma rã,
é um resto
de mato,
na luz
da manhã,
são as águas de março fechando o verão, minha promessa de vida no teu coração.
Thank you.
como a cobra é um pau.
É João.
É José.
É um espinho.
Na mão.
É um corte.
No pé.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É pau.
É pedra.
É o fim
do caminho.
É um resto
de topo.
É um pouco.
Sozinho. É um passo, é uma ponte.
É um sapo, é uma rã.
É um belo horizonte.
É uma febre terçã.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Pau.
Pedra. Sol.
São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. Badaba, badibaziza, zazaziza, azana menha, anandede, banandede.
Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de l'interview avec Guillaume Morin et Frédéric Bompard de l'entreprise Selvao Conception. Au niveau du concept qui est innovant, vous parlez de biomimétisme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que le biomimétisme ?
Alors, le biomimétisme, c'est en fait la faculté d'observer la nature et de s'inspirer de ce qu'elle fait de mieux pour vivre et pour fonctionner. Donc sur nos différentes structures, on s'en inspire sur la forme, ce qui va permettre de bien résister aux conditions de vent, aux conditions de neige. Bon, dans la vallée, là, il n'y a pas beaucoup de neige, mais ça peut être le cas dans d'autres endroits. Et puis pour aussi avoir une qualité de vie intérieure, quoi. Par exemple, sur la goutte d'eau, on a la forme d'une goutte, ce qui va faciliter énormément la tenue au vent de la structure. Sur la campalune, on a toutes les fenêtres, elles s'ouvrent comme les pétales d'une fleur. Ça, c'est pour le confort vraiment intérieur des personnes. Après, sur la pendola, c'est suspendu comme un nid, comme le nid des oiseaux, et on est installé confortablement, bercé par le vent, parce que c'est une manière simple de faire la sieste ou de passer une nuit dans les arbres.
C'est ça.
Je voulais préciser aussi que tout ça, en fait, ça facilite aussi l'harmonisation avec son environnement, en fait. Voilà. Ça permet d'intégrer beaucoup plus facilement, en fait, nos structures dans son environnement.
Oui, voilà. C'est ça. Là, par exemple, la goutte dans laquelle on est, il y a un revêtement. Alors, je ne sais pas en quoi il est, ce revêtement. Qui fait comme un miroir, du coup les arbres se reflètent.
Là sur cette goutte-là, le client a voulu que la goutte s'intègre encore plus dans la nature et reflète en fait la nature environnante. Et du coup le matériau utilisé c'est de la tôle miroir en fait qui permet de refléter les arbres alentour. Donc de l'extérieur on a l'impression de pas voir quasiment la structure.
Oui, c'est ça, ça se reflète totalement avec les arbres, c'est super. Ouais. C'est vraiment un concept qui prend la nature en compte comme source d'inspiration, en harmonie avec l'environnement. C'est très harmonieux et très poétique en même temps, c'est super, allez voir.
On est des poètes, c'est pour ça.
Voilà, de quoi passer une bonne nuit magique dans les arbres.
Ouais, et puis c'est surtout aussi c'est un moyen aussi pour nous de se démarquer de nos concurrents en fait, tout simplement. Mmh. Parce que c'est vrai qu'en termes de design, en termes d'architecture, on est hyper innovant.
Oui, justement, vous avez un concept aussi de faire du sur-mesure pour vos clients. Donc ils peuvent vous demander un petit peu ce qu'ils veulent. On part d'une base de fabrication avec la base de la gamme là, qu'on a déclinée tout à l'heure, la Pandola, la Campalune et la Goudo. Mmh. Et après, ils peuvent vraiment vous demander ce qu'ils souhaitent.
Oui, tout à fait. En fait, on peut donc soit partir des bases qui sont existantes, ce qui facilite notre travail, et après avoir une forme un peu différente à l'extérieur ou des couleurs différentes ou des enveloppes différentes. Donc soit on parlait de la toile, soit de la tôle laquée. Donc ça, c'est au choix du client. Et après, on fait aussi des projets qui sont complètement sur mesure où là, la personne arrive avec son idée et on discute ensemble, on émet des idées, quoi, des hypothèses sur la fabrication. Et on... et on fait un produit spécifique à la demande. Par exemple, là, on a travaillé cette année pour un éducateur sportif qui emmène des gens dans les arbres, mais qui se déplace régulièrement. Donc c'est une structure vraiment démontable en quelques heures et remontable pareil en quelques heures, qui a la forme d'une sphère avec un toit qui est complètement plié au milieu et qui se déplie dès qu'il se met à pleuvoir.
Donc voilà, c'est modulable en fonction du design, mais aussi en fonction des matériaux qu'on souhaite utiliser, c'est ça. Ça permet de s'adapter aux envies et aux contraintes aussi de chacun, en fait.
Tout à fait. D'où le mot conception qui prend tout son sens dans ce cas-là, quoi.
Oui.
Par exemple, on a une demande d'une personne qui souhaitait effectivement avoir un logement extérieur pour elle. Donc on lui a créé ce qu'on appelle aujourd'hui la cabane ourte. Donc c'est un mix d'une cabane et d'une yourte avec comme base en fait la campe à lune. Voilà, donc c'est un 20 mètres carrés, c'est posé au sol, et ça correspondait effectivement à la demande de cette personne particulière, en fait.
Pour un habitat au quotidien ?
Oui, tout à fait. Elle voulait effectivement un logement où elle puisse rester toute l'année. Donc, il y a une possibilité de mettre un poêle à l'intérieur pour pouvoir chauffer.
Ouais.
Donc là, elle a vraiment transformé en fait, cette cabane ourte en chambre avec un poêle pour pouvoir passer l'hiver. Voilà, c'est vraiment sa chambre, en fait.
Ok, super. Qui sont vos clients, en fait ? Qui pourraient être amenés à installer ces habitats ?
Et ben en fait, on va dire que ça peut être tout le monde. Voilà. Mais c'est vrai que c'est essentiellement pour les professionnels du tourisme, les campings, les chambres d'hôtes, les gîtes. Notamment là, on est dans un gîte, mais pour la campagne à lune, il y a des campings qui nous ont achetés. Voilà, c'est vraiment pour les professionnels du tourisme. Après, il y a certains particuliers qui achètent aussi la goutte d'eau pour faire un bureau ou pour faire... je sais pas, leur petite cabane personnelle. Donc voilà, c'est vraiment ouvert à tout le monde, en fait.
Si les auditeurs souhaitent aller voir un peu à quoi ça ressemble, voir des images, on peut aller sur votre site internet ?
Ouais, tout à fait. Ils peuvent aller sur www.selvamo.com. Sinon, il y a une possibilité aussi de nous suivre sur Facebook. Donc n'hésitez pas à liker.
Il faut, dans la barre de recherche,
Selvao Conception. Et sinon, effectivement, on est situé à Piégro, la Clastre, où ils peuvent nous contacter et on peut les emmener effectivement voir nos structures si ça les intéresse de visiter et de voir nos gouttes d'eau ou nos campes à lune.
D'accord, super. Mais merci à vous en tout cas pour cet échange et je vous souhaite une belle réussite et à bientôt.
À bientôt.
Merci beaucoup.
Merci. Retrouvez l'émission sur le Facebook d'Initiative Vallée de la Drôme d'Iwa ou en podcast sur le site de RDIWA, www.rdwa.fr. ou sur le site de Radio Saint-Ferréol, www.radiosaintfé.com.